pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. On en a beaucoup parlé cette semaine, j'ai choisi la première phrase d'Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell qui vient d'être retraduit. Donc je vous donne la version française de 1939 et celle d'aujourd'hui. 1939 donc. Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique, mais les hommes ne s'en apercevaient guère quand, à l'exemple des jumeaux Tarleton, ils étaient captifs de son charme. Et version 2020, Scarlett O'Hara n'était pas belle, mais les hommes en avaient rarement conscience une fois sous son charme, comme l'étaient les jumeaux Tarleton. À vous de voir, la première traduction est disponible chez Folio, la nouvelle chez Gallmeister. Les deux, de toute façon, sont en deux tomes, des romans et éventuellement des chefs-d'œuvre. Nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission tout à l'heure. Il sera question d'Elena Ferrante d'ailleurs. Et puis Victor Dolande sera là lui aussi avec sa chronique jeunesse. Il va nous apprendre à construire un radeau, j'ai peur. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. La voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Cul-de-sac, son premier roman, loin d'être une impasse, lui a ouvert en grand les portes de l'édition. C'était un polar, mais on le connaît aussi pour ses romans d'amour ou psychologiques. Peu importe d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'essaie de lui trouver un genre, il explore tout. L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est lui aussi. On l'avait quitté avec sa grande fresque américaine, La Symphonie du hasard. Le revoilà avec Isabelle, l'après-midi, chez Belfond. C'est le plus français des écrivains américains. Bonjour Douglas Kennedy.
Bonjour, grand plaisir. Je suis dans le domaine, confiné comme d'habitude depuis 14 semaines.
C'est ça, je suis content de vous avoir au téléphone, mais je sais que vous êtes dans le Maine. Comment ça s'est passé pour vous et comment ça se passe toujours pour vous là-bas?
La vérité, comme vous savez, en fait, je bouge tout le temps. En fait, je vis entre New York, Paris, Berlin et de temps en temps le Maine. Mais le 16 mars, quand c'était clair que, en fait, le monde va basculer, va fermer. J'ai pris une décision, en fait, de rester ici dans le Maine parce que ma fille, elle vit à New York et donc on a quitté New York dans une voiture, une aller simple. Et puis, on est ici depuis presque 4 mois et mon fils qui était confiné à Londres avec mon ex-femme, il est arrivé, en fait. J'espère que je serai à Paris, en fait, le 13 juillet, en fait, j'ai réservé une place chez Air France. Et la vérité, en fait, maintenant, quel est le thème de cet instant-là, historiquement? On verra. On verra.
Ah oui, vous aimez beaucoup cette expression.
Mais c'est la vérité maintenant aussi. En fait, on vit pendant une époque où on verra, c'est clair. J'espère, par exemple, que, en fait, je vais écouter un orchestre. La musique classique, c'est une de mes grandes passions. À l'avenir, on verra. J'espère que je vais voir une pièce de théâtre dans une salle avec 500 spectateurs. On verra. Voyager sans problème, on verra.
On verra. Mais est-ce que vous avez réussi à écrire? Est-ce que vous réussissez à écrire pendant ce confinement? Ou est-ce que l'angoisse, l'attente à l'extérieur vous bloque un peu?
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Je suis d'accord avec un certain Sigmund Freud qui a dit, en fait, le travail, c'est le seul équilibre dans la vie. Et j'ai terminé mon prochain roman, le deuxième jet de ça. Ça, c'était le 16 mars. J'ai enregistré une masterclass en vidéo. Ça, c'est en fait en 14 chapitres.
Quand même.
Je suis au milieu du prochain Aurore. Ça, c'est ma série pour des enfants, illustrée par le grand Johan Svarr. Et donc, ça sera terminé dans 10 jours. Et je fais du sport tous les jours. Ça, c'est très chez moi, en fait, travailler tout le temps. Mais aussi, c'est le seul antidote de cette situation. Heureusement, dans le Maine, c'est impossible de voyager beaucoup, mais on peut conduire. En fait, je suis dans un petit village au bord de la mer. Toutes les plages étaient fermées jusqu'à il y a 5 jours et maintenant les plages réouvrent, les parcs nationaux aussi. C'est pas mal, mais en même temps, presque 4 mois ici. Ah!
Oui. Surtout que vous avez adopté un chat, je crois.
Tout à fait, tout à fait. Avec ma fille, en fait, la deuxième semaine ici, parce que elle vit maintenant à New York. Elle a commencé sa carrière comme comédienne et écrivaine aussi. Et ma fille a été, en fait, aussi très occupée. Elle commence son premier roman et c'est très bon. Mais elle m'a dit, quand elle a quitté Los Angeles et son conservatoire de drame, il y a quelques mois, elle m'a dit, j'ai un chat. Et donc, la deuxième semaine d'ici, de confinement, j'ai découvert que, franchement, il y avait un endroit pas loin de chez nous où on peut adopter des animaux et ça reste ouvert. Et j'ai dit à Amelia, oui, c'est le moment juste de faire ça.
Il s'appelle comment?
Et il s'appelle Avocat et il est un peu dingue et très charmant et aussi une autre source de l'équilibre au milieu de cette situation. Donc, et il est, oui, fréquemment sur mon bureau quand j'écris. Et c'est ça, oui, il mange mon ordinateur. Il est adorable.
Venons-en au roman quand même. C'est donc l'histoire de Sam. Nous sommes en 77. Il a une vingtaine d'années. Il est américain. Il est censé intégrer, suivre des études de droit. Mais il décide, avant justement de suivre ce chemin tout tracé, de s'installer à Paris pour y flâner un peu pendant quelques mois. Il a mis un peu d'argent de côté. Son père râle un peu. Mais enfin bon, il y va quand même. Il est libre. On est en plein hiver. Et là, on sent que vous vous êtes fait plaisir, Douglas Kennedy, pour décrire le Paris des années 70 et surtout l'errance d'un étudiant sans trop de moyens, certes, mais sans attache aucune.
Oui, tout à fait. Et le truc pour moi, en fait, j'ai découvert Paris quand j'étais un étudiant à Trinity College Dublin en 74. Et puis, en fait, j'ai passé typiquement quelques semaines à Paris tous les ans vers 77. Et maintenant, en fait, j'ai une pièce de terre à Paris depuis 20 ans. J'ai maîtrisé la langue, toujours avec un accent américain, mais je parle couramment. Mais pour moi, en fait, c'était très important. Dans ce roman, il y a des deux personnages, Sam et son amante, Isabelle, et leur 5 à 7 qui durent 35 ans.
On va y venir, mais je voudrais qu'on reste un peu sur le Sam qui vient d'arriver à Paris et qui se sent seul, qui ressent comme un mal-être. C'est pas le mal du pays, c'est pas très identifiable. Est-ce que c'est l'horizon qui est trop large dans ces situations-là?
Peut-être, peut-être. Mais aussi, le Paris que il découvre, c'est le Paris que j'ai découvert à l'époque. Ce n'est pas un Paris des grands apparts, des restos gastronomes. Et franchement, en fait, de mon Paris maintenant, et depuis 20 ans, ce n'est pas un Paris de resto, en fait, Michelin ou des choses comme ça. Le Paris de Sam, c'est un hôtel de demi-étoile, la rue Gay-Lussac, en fait, des petits cinémas, la rue Champollion, des clubs du jazz, en fait, rue des Lombards, des choses comme ça, et des restos bon marché, mais très agréable en même temps. Et ça, c'était mon pari, franchement, quand j'avais la vingtaine et la trentaine aussi. Et ça reste mon pari, même si Paris a changé un peu. Et en fait, le pari avec Isabelle, son amante, même si elle est une femme un peu plus âgée, la trentaine, une femme mariée, mais son mari est banquier, d'une famille grand-bourgeoise. Il a acheté un studio pour son bureau, mais aussi avec la compréhension que peut-être elle aura en fait une aventure de temps en temps et c'est discret comme ça, comme lui. Et son appart, c'est 28 mètres carrés, 5e étage dans le même immeuble que les éditions de Minuit. Ça, c'était mon premier appart à Paris.
Voilà.
J'ai utilisé ça dans le roman.
Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question, Douglas. Ça sent un peu le vécu. Et est-ce que vous aussi, vous avez ressenti en arrivant cette espèce de solitude qui est assez dure à vivre quand on est à Paris, seul, donc
Même si on est seul à Paris, on n'est pas seul parce que, franchement, en fait, on est dans un cinéma, on est dans un club de jazz, un café. En fait, la vie est toujours à côté. Et ça, c'est un truc que j'adore à Paris. Et ce n'est pas une ville seulement pour le business. Au contraire, en fait, c'est une ville pour vivre aussi. Et l'art de vie aussi, en fait, est très important là-bas. Et pour moi, un aspect de ça.
Restez avec nous, Douglas Kennedy est de retour dans La Voix Livre dans un instant. L'histoire d'amour arrive, évidemment. Et puis, il faut qu'on dise un mot du titre. Faites-moi penser. À tout de suite.
La Voix est Livre. Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est Libre, on repart immédiatement pour les États-Unis rejoindre Douglas Kennedy dans le Maine pour parler de son nouveau roman Isabelle l'après-midi, l'histoire de Sam, donc américain, étudiant, qui a décidé de vivre quelques mois à Paris avant de reprendre sa carrière. Il se sent un peu seul. On a bien l'impression qu'il va le rester jusqu'au moment où il rencontre Isabelle, 36 ans, elle est traductrice, très belle. C'est une histoire d'amour qui commence, mais c'est ballot, elle est mariée et donc ça se passe de 5 à 7 l'après-midi, d'où le titre. On pourrait penser que c'est un roman sur l'infidélité, mais c'est plutôt le miroir finalement, Douglas Kennedy. C'est un roman aussi sur le mariage et ça, c'est une question qui vous travaille tout le temps.
Oui, tout à fait. En fait, je suis un homme divorcé deux fois. Mon premier mariage a duré presque 25 ans avec deux enfants magnifiques. Le deuxième, c'était un coup de foudre. Ça a duré en fait 5 ans, mais pas de regret. Je suis vacciné contre le mariage maintenant, mais pas contre la mort. Mais le truc, pour moi, j'ai commencé de réfléchir de cette idée après mon deuxième divorce, avec la connaissance que peut-être, en fait, un des plus grands défis dans une vie, c'est créer un couple qui va durer. J'ai dit ça récemment à ma fille qui a 24 ans et elle était au milieu d'une rupture récemment, même si c'était elle qui a décidé de partir. Et je lui ai dit, on pense tout le temps au peut-être l'amour éternel, la femme ou l'homme de ma vie, des choses comme ça. La vérité dans une vie intime, comme un roman, il y a des chapitres. Il y a des chapitres très longs, comme une nouvelle, et aussi il y a des chapitres qui tirent un paragraphe, ou peut-être deux phrases. Vous êtes d'accord. Et le truc pour moi... avec Sam et Isabelle, aussi on voit pendant des décennies, et 5 à 7, la manière où en fait, le pouvoir change dans une couple. Au début, Sam, il est jeune, il est un peu naïf, mais aussi en fait, le sexe est extraordinaire, la passion est magnifique.
Parce qu'elle refuse de quitter son mari.
Ah oui. Et puis il y a un moment, en fait, quelques années après, quand en fait, Isabelle est prête, mais pas Sam.
Et il faut dire que Sam est reparti, etc. On les suit pendant plus de 30 ans. Hein.
Oui, tout à fait. Mais la passion reste très, très forte. Et ça, c'est aussi une question derrière le roman. Est-ce que c'est vrai que, en fait, si c'est en dehors du quotidien, en fait, la passion reste forte? Si Sam et Isabelle avaient commencé une vie ensemble, peut-être le résultat aurait été complètement différent. Ça, c'est, et je sais ça, ça c'est le plus grand défi dans un couple, c'est la vie quotidienne. Et honnêtement, en fait, la question de fidélité, c'est toujours, en fait, une grande question.
Mais c'est assez triste, je veux dire, il y a de la mélancolie dans ce roman, il y a une forme de tristesse et de l'impossibilité d'être jamais complètement satisfait. Puis aussi de l'éternel combat entre l'envie de tranquillité et l'envie d'aventure. Il n'y a pas de réponse, finalement, bien sûr que non.
Et pas de réponse. Et en fait, vous avez raison. En fait, c'est une mélancolie, en fait, partout. Et oui, il y a une tristesse de roman, même si aussi, je pense que, en fait, entre Sam et Isabelle, c'est très beau aussi, mais c'est triste. Et parce qu'il n'a pas de réponse, et ils comprennent ça. Et ils ont eu des vies séparées. Mais cette connexion immense est très, très, très importante, très forte. Mais en même temps, impossible. Et oui, en fait, ça, c'est la mélancolie. Mais peut-être que c'est mieux d'avoir une mélancolie que ça, que peut-être, en fait, l'ennui.
Oui, ça fait partie de la passion, cette mélancolie que vous décrivez dans le livre. On ne parlera pas de la fin, bien sûr, mais donc on suit la vie de Sam et Isabelle pendant longtemps. Et à la fin, Sam a un souvenir qui lui revient en tête. La conclusion, c'est quand même que ça vaut le coup, hein, malgré tout, malgré cette tristesse.
Oui, tout à fait, mais... C'est 35 ans de vie pendant 300 pages. Et on voit aussi un autre aspect de la vie, que les choses tragiques arrivent tout le temps. Sam et Isabelle luttent avec des choses très, très, très difficiles. Et ça change un couple aussi, ça change le trajet d'une vie, mais qui reste cette connexion immense. Et tout le monde m'a dit à la fin, en fait, ils sont très bouleversés par le roman, parce que j'espère que je pose beaucoup, beaucoup de questions universelles au sujet d'une couple, la passion, en fait. Pourquoi on est obsédé par la fidélité? Je pense que, personnellement, en fait, je m'en fous de la fidélité physique, la fidélité émotionnelle. Ça, c'est immense et ça, c'est très important. Mais ça, c'est chez moi. Il y a des autres qui vont dire non, 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 non. Et ici, aux États-Unis, en fait, avec nos racines puritaines, en fait, la fidélité, c'est un sujet, en fait, hyper important et très, très, très sérieux. Peut-être la France m'a corrompu. Je ne sais pas.
Est-ce que vous croyez que tous les Français sont comme ça, c'est ça? Vous avez raison de le préciser, d'ailleurs, Douglas Kennedy. Contrairement à beaucoup de romans d'amour, on n'est pas focalisé uniquement sur l'histoire d'Isabelle et Sam. Il y a aussi des malheurs, des bonheurs aussi, mais des choses assez dures qui leur arrivent en dehors de cette histoire d'amour, mais qui, évidemment, alimentent et puis nourrissent cette histoire d'amour. Vous l'inscrivez
oui,
dans la vie.
Oui, tout à fait. Et j'espère que j'ai écrit quelque chose, en fait, bouleversant, en fait, réel, mélancolique, mais aussi existentiel aussi, parce que derrière de ce roman, en fait, franchement, la question, en fait, la plus profonde est peut-être... est-ce que c'est possible de créer une couple qui va durer jour après jour après jour, ou peut-être, et surtout maintenant, après cette période de la séparation aussi, en fait, le thème de la séparation, c'est partout dans ce roman aussi. Et le fait que dans une vie, il y a toujours des choix, toujours des choix, même si on est très amoureux, il y a des moments qu'on peut-être on va éviter, en fait, la possibilité de bonheur. Pourquoi? Ou on va choisir quelque chose, en fait, plus pratique et plus traditionnel. Ça, c'est la choix d'Isabelle et aussi, de certaine manière, Sam. Mais aussi avec l'idée qu'il y a une vie en parallèle en même temps. Et ça, c'est aussi un de mes obsessions aussi, depuis L'homme qui voulait vivre sa vie.
Oui.
L'idée de la vie en parallèle. Et même si on est au milieu d'une vie, on rêve toujours d'une autre vie.
De vivre plusieurs vies en
même temps. Ça, c'est toujours la condition humaine.
Isabelle l'après-midi, donc, c'est chez Belfond, traduit par Chloé Royer. Merci beaucoup, Douglas Kennedy.
Et merci à vous et prenez soin de vous.
Vous aussi, à bientôt. À Paris.
À bientôt.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure d'écouter un livre. Elena Ferrante a publié son nouveau roman La vie mensongère des adultes chez Gallimard. On en a parlé tout à l'heure chez Sophie Larmoyer. On risque d'en reparler avec Stanislas Rigaud qui a adoré. En attendant, c'est l'occasion d'écouter le début de la grande saga qui l'a fait connaître. Enfin connaître, elle reste très mystérieuse quand même. Voici donc les premières pages de L'amie prodigieuse, lue par Marina Moncade.
Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps ? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles. Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indignée, juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée, moitié en dialecte et moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit ? Tu sais comment elle est ? D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal ? Ben oui. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. C'est encore pire. Elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle, et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. « Elle ne serait pas chez toi ?» m'a-t-il soudain demandé. « Sa mère, ici à Turin ?» Il connaissait bien la situation et ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur, et il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'aurais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu « Elle n'est pas chez moi, non. »« Tu es sûre ?»« Rino, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. »« Mais alors elle est où ?» Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir, avec des sanglots qui commençaient par être fins avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé. « S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait pour une fois. Ne la cherche pas. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu. C'est inutile. Apprends à vivre tout seul. Et ce n'est pas la peine de me chercher non plus. » J'ai raccroché. La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo, mais tout le monde l'a toujours appelée Lina. Pas moi. Je n'ai jamais utilisé ni ce premier ni ce deuxième prénom. Depuis plus de 60 ans, pour moi, elle est Lila. Si je l'appelais Lina ou Raffaella, comme ça, d'un coup, elle penserait que notre amitié est finie. Cela fait au moins 3 décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces. Et il n'y a que moi qui sache vraiment ce qu'elle veut dire. Elle n'a jamais eu à l'esprit une quelconque fugue, un changement d'identité ou rêvé de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide, dégoûtée comme elle est à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligée de s'en occuper. Son intention a toujours été différente. Elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Et comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde. Pas un cheveu, nulle part. Les jours ont passé. J'ai surveillé ma messagerie électronique et mon courrier, mais sans espoir. Je lui ai écrit très souvent, mais elle ne m'a presque jamais répondu. Cela a toujours été son habitude. Elle préférait le téléphone ou les longues nuits passées à bavarder quand je descendais à Naples. J'ai ouvert mes tiroirs et les boîtes en métal dans lesquelles je conserve des souvenirs de toutes sortes, bien peu de choses. J'ai jeté beaucoup d'affaires, en particulier la concernant, et elle le sait. J'ai découvert que je n'ai rien d'elle, pas une photo, pas un message, pas un petit cadeau. Je m'en suis étonnée moi-même. Est-il possible qu'en tant d'années, elle ne m'ait rien laissé d'elle, ou pis encore, que je n'ai jamais voulu garder quelque chose d'elle ? Oui, c'est bien possible. Cette fois, c'est moi qui ai téléphoné à Rino, même si je l'ai fait à contre-cœur. Il ne répondait ni sur son fixe ni sur son portable. Il m'a rappelé dans la soirée, à sa convenance. Il parlait avec une voix qui essayait d'apitoyer. « J'ai vu que tu as appelé. Tu as des nouvelles ?»« Non. Et toi ?»« Aucune. » Il m'a tenu des propos désordonnés. Il voulait aller à la télé, à l'émission qui s'occupe des personnes disparues. Il lançait un appel, demandait pardon à sa mère pour tout et la suppliait de rentrer. Je l'ai écouté patiemment et puis lui ai demandé. Tu as regardé dans son armoire ? Pourquoi faire ? Naturellement, il ne lui était jamais venu à l'esprit de faire ce qui était le plus évident. Va voir. Il y est allé et s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, même pas un vêtement de sa mère, d'été ou d'hiver, seulement de vieux cintres. Je l'ai envoyé fouiller la maison. Ses chaussures avaient disparu. Ces quelques livres aussi. Disparues toutes les photos. Disparus les films. Disparu son ordinateur, même les vieilles disquettes qu'on utilisait autrefois. Tout. La moindre trace de ses activités de fée de l'électronique. Elle qui avait fait ses premières armes avec les ordinateurs dès la fin des années 70, à l'époque des fiches perforées. Rino était stupéfait. Je lui ai proposé « Prends tout le temps que tu veux » et ensuite appelle-moi pour me dire si tu as trouvé ne serait-ce qu'une épingle qui lui appartienne. » Il m'a rappelé le lendemain, très agité. « Il n'y a rien. »« Rien du tout ? » ?»« Non. » Elle a découpé son image sur toutes les photos où nous étions ensemble, même celles de quand j'étais petit. Tu as bien regardé ? Partout. Même à la cave. Partout, je t'ai dit.
L'amie prodigieuse, donc d'Elena Ferrante, ou Ferrante, je sais jamais comment on dit, à lire ou à relire ou à écouter. Dans un instant, nous partons à la découverte de la bibliothèque de Guillaume Musso. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, c'est le moment d'aller visiter une bibliothèque. Et lui, c'est le recordman chaque année du nombre de livres vendus. Son dernier roman s'appelle La vie est un roman chez Calman Levy. J'étais curieux de découvrir ses lectures. Allons voir. Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. Enfin, pas tout à fait chez vous. Expliquez-nous, c'est votre bureau, mais c'est quand même chez vous.
Moi, je fais très attention à ce que mon monde imaginaire ne cannibalise pas ma vie de famille. Et donc, mon appartement familial est exclusivement réservé à la famille. Donc, je ne travaille jamais chez moi. Et tous les matins, après avoir accompagné mon fils à l'école, je viens ici, oui, qui est mon ancien appartement que j'ai reconfiguré en bureau. Et je travaille de 9h à 19h ici.
Ah ouais, vous avez des horaires de bureau, alors que c'est bizarre, parce que pour un écrivain, on pourrait s'imaginer qu'au contraire, il n'est pas obligé de prendre les transports ou se fader les embouteillages et tout ça. Et non, vous y tenez.
Pendant des années, j'ai eu deux métiers. Moi, j'étais professeur d'économie le jour et j'écrivais la nuit, j'écrivais de 20h à 3h du matin. Ça, vous pouvez le faire quand vous avez 30 ans. Vous ne pouvez plus le faire quand vous avez des enfants de 2 et 6 ans. Donc, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et donc maintenant, j'arrive à travailler comme ça.
Bon, ça tombe bien, c'est aussi là que sont les livres. Et avant de parler des livres, je voudrais parler quand même d'une petite chose là, qui est sur votre table basse. Une Corona, donc pas le virus, c'est une marque célèbre de machine à écrire. Et il y en a une là, c'est une authentique ou c'est de la déco?
C'est quoi? C'est une Corona 1929, ouais, c'est un cadeau de ma femme, c'est un truc qu'on a acheté à Londres, qu'elle a acheté à Londres. Et qui était parce que je lui avais raconté cette anecdote sur Hemingway. Hemingway disait toujours « Je n'ai eu qu'une seule psychiatre ou psychanalyse dans ma vie, c'était ma Corona. »
Elle fonctionne, puisque vous avez
mis
un papier.
Oui, elle marche. Alors, j'écris pas dessus, mais elle a été restaurée. Et elle a encore effectivement des rubans encreurs.
Alors, il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas trop par où commencer. Mais j'ai envie quand même de commencer par le classique des classiques que je retrouve dans beaucoup de bibliothèques d'écrivains. C'est Écriture, signé le maître Stephen King, qui raconte un peu son métier.
Oui, c'est moi, depuis 20 ans, j'ai toujours aimé lire des livres de grands écrivains comme ça, qui ouvrent un petit peu la boîte noire de leur méthode de travail, de leur intimité. Il y a Écriture, effectivement, de King, qui est très accessible. Il y a Parlons Travail de Philip Roth. Il y a des essais de Zadie Smith. Il y a aussi ce livre-là d'Anthony Burgess, qui s'appelle Hommage à Quartiop.
Et on retrouve QWERTY, là, UOP, le clavier, qui est, voilà, les premières lettres du clavier.
Voilà, les cours de Nabokov. Ce sont des livres qui sont stimulants, qui vous interrogent sur votre propre façon de travailler, d'écrire.
Stephen King en particulier, il y aurait un conseil que vous avez gardé, auquel vous pensez ?
Bien sûr, Stephen King dit tout le temps, voilà, il faut fermer la porte. Fermer la porte pour arriver à écrire, c'est trouver un moyen de s'extraire de sa vie quotidienne et de traverser le No Man's Land qui vous mène à votre vie imaginaire. Il répète ça souvent, et c'est vrai que, comme Virginia Woolf, quand vous avez trouvé une place à soi, une place à vous, voilà, pour pouvoir écrire, vous avez comme ça ce réflexe presque pavlovien, où vous savez que quand vous êtes dans un lieu, ce lieu est dédié au travail et à l'imaginaire.
On reste dans... Non, ça n'a rien à voir. J'essaye de faire une transition, mais ça n'a vraiment rien à voir. Mais j'ai envie d'en parler, c'est tout. Parce qu'aussi, on en a parlé, on a lu quelques extraits il y a 2 semaines dans l'émission. C'est Le nom de la rose qui est juste au-dessus. Le nom de la rose d'Umberto Eco, évidemment adapté en film aussi, qui est aussi un chef-d'œuvre du cinéma avec Sean Connery et Christian Slater. Pourquoi vous... Il est bien en évidence, là.
Je l'ai relu récemment. J'ai rencontré Umberto Eco un peu avant sa mort, parce qu'on a la même éditrice en Italie, Elisabetta Sgarbi, que j'aime beaucoup, qui m'avait fait venir à Milan. Et à cette occasion-là, effectivement, j'ai eu envie de racheter le livre, d'en voir la richesse. Parce que finalement, oui, c'est un livre qui a beaucoup été, alors non pas parasité, mais un petit peu écrasé par les images du film, qui étaient très accessibles. Hein. Le nom de la rose, j'avais oublié combien ce livre était intelligent, érudit, et à quel point aussi il fallait s'accrocher pour dépasser les 100 premières pages. Pendule de Foucault, c'est pareil, peut-être encore plus obscur.
Le Pendule de Foucault, j'adore Umberto Eco, mais j'ai jamais pu le terminer.
Mais effectivement,
quoi.
Un labyrinthe, mais stimulant.
Juste à côté, il y a un truc qui m'intrigue. Oui. Il y en a même deux. C'est des carnets, des
mais
grands carnets, grand format.
C'est les cahiers, vous pouvez ouvrir. Hein. Ça, c'est les.
C'est et donc, les... il y a marqué La jeune fille et la nuit. L'autre, c'est L'instant présent. C'est les titres de 2 de vos romans.
Chaque roman, c'est des sortes de cahiers préparatoires où vous avez écrit à la main.
Le meurtre de Fanny.
Synopsis. Oui, voilà, c'est
avec
une
des tirets.
De...
Voilà, c'est bien rangé.
Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est. Alors, avant d'en arriver là, il y a beaucoup de brouillons. Là, quand ça franchit l'étape du cahier, c'est déjà que le roman est quand même déjà très, 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 très construit.
Donc, ça, c'est un plan avec quasiment tout le livre dedans que vous posez à côté de votre ordinateur avant de commencer la rédaction ?
Oui, même si ce plan sert davantage de béquille et sert plutôt psychologiquement à se faire croire qu'on sait où on va. Denis Liane dit souvent, oui, il faut avoir une ossature, une tuyauterie forte lorsqu'on commence à écrire sur une enquête policière, parce que ça sécurise, mais il faut être ouvert, bien sûr, au moment de l'écriture, à ce que vos personnages peuvent vous proposer.
Il faut se surprendre un petit peu.
Il faut se raconter l'histoire à soi-même et se dire que si elle vous intéresse, elle en intéressera peut-être à d'autres.
Je vois juste à côté, je suis vraiment interloqué par cette couverture de Marathon Man, William Goldman, avec la tête de Dustin Hoffman. Ça vous attire aussi, ça ?
Oui, ça, c'est un livre qui m'a été conseillé par mon ami Jean-Christophe Granger, qui voue une admiration sans borne à ce livre. J'aime beaucoup Granger parce qu'il a ouvert, une voie aux raconteurs d'histoire français. Et quand j'avais 20 ans, que j'ai lu le Vol des cigognes, je me suis dit, ah tiens, voilà un type français qui écrit des romans policiers qui me parlent et que j'aime lire. Et par la suite, quand j'ai rencontré Jean-Christophe, voilà, on est devenus amis. Et c'est quelqu'un que je respecte aussi parce qu'après 25 ans de carrière, il continue tous les matins à se lever à 4h30 ou à 5h du matin à préparer son thermos de thé avant de se mettre au boulot. Et on partage une vision artisanale du métier d'écrivain.
C'était une parenthèse, Marathon Man et Jean-Christophe Granger, mais on était dans les beaux livres et je voudrais y rester un petit peu parce qu'il y en a un très beau aussi,
oui,
qui s'appelle L'invasion de Paris, un livre très grand format en coffret avec un verre fluo pétant qui s'appelle donc L'invasion de Paris et on voit dessus ce qu'on retrouve dans la rue parfois, oui, les petites mosaïques d'extraterrestres.
Oui, c'est l'artiste français Invader qui depuis presque 20 ans, pose à Paris ses petites mosaïques. Je crois qu'il en a posé presque 2000. Il en a posé à New York. Il en a posé un petit peu partout dans le monde. Et je suis intéressé et intrigué par ce projet. Il appelle ça les invasions. Comment l'art descend dans la rue et comment, avec ce pixel, il réinterprète la mosaïque ancienne et l'univers actuel des jeux vidéo.
Il y a encore 2 autres beaux livres en dessous, des livres d'art, notamment un de Jérôme Bosch, le triptyque avec ses créatures fabuleuses. Voilà. et il y en a quelques-uns comme ça qui sont sur la table basse. C'est pour ça que ça s'appelle des coffee table books. Voilà. Est-ce que vous aimez les avoir? Vous aimez savoir qu'ils sont là? Ou est-ce que vous prenez le temps parfois, sur la longueur, de vous mettre sur le canapé qui est juste à côté pour les compulser? Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous allez souvent, une page que vous cherchez toujours?
Moi, les livres d'art, disons que au fur et à mesure, mon rapport à l'image a évolué. Disons qu'au début, j'aimais surtout les images qui bougeaient, autrement dit les films, les séries, et au fur et à mesure. Et donc, on disait, que j'avais une écriture visuelle, scénarisée. Et en avançant en âge, je suis de plus en plus fasciné plutôt par les tableaux et par les émotions intérieures que ça peut provoquer.
Il y a d'autres beaux livres un peu particuliers aussi sur cette table basse. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'adore cette revue, c'est « America ». Vous en avez 3 exemplaires. Vous n'avez pas toute la collecte, c'est dommage, parce que quand on les met sur la tranche, après, ça dessine l'Amérique.
Je sais bien. Alors,
qu'est-ce qui vous attire dans cette revue?
Je connais bien Julien Bisson depuis longtemps.
Qui est le rédacteur en chef.
Voilà. Et moi, je n'ai pas de fascination pour les États-Unis, mais j'ai une interrogation par rapport à ce pays, par rapport à sa littérature, par rapport à l'évolution de ce pays, et ce magazine mixe un peu tout ça avec une vision littéraire, sociale de ce pays. Oui,
je rappelle que c'est donc l'Amérique vue par les écrivains américains ou français d'ailleurs, mais voilà, c'est ça le thème évidemment d'America, l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu. C'est on ne dira jamais assez à quel point c'est une revue magnifique. Merci beaucoup, Guillaume Musso.
Merci à vous.
À bientôt.
Avec plaisir.
Europe 1.
Guillaume Musso, donc, qui publie La vie est un roman chez Calman Lévy. Dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, il est l'heure de pousser la porte des librairies super déconfinées avec aujourd'hui Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Et Stanislas Rigaud, la librairie Lamartine, c'est à Paris. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On commence par vous Thibaut, qu'est-ce que vous nous avez amené?
Alors moi je vous amène L'Homme sauvage de Frédéric Boutet, c'est chez L'Éveilleur.
C'est tout petit?
Ouais, c'est tout petit, ça se lit très vite, mais c'est un vrai régal. C'est de la nourriture littéraire, si je puis dire. Ça raconte l'histoire, en fait, de l'homme sauvage. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et en fait, il habite au 5e étage d'un immeuble à Paris. Et on apprend son existence lorsque son voisin du dessous, au 4e étage, un homme d'une très, très bonne condition sociale, voit son lustre tomber alors qu'il mange avec sa famille, son lustre tomber, un trou, une racine et de la vase qui tombe sur la table. Alors là, il déclenche un cataclysme, il ne comprend pas ce qui lui arrive à lui, un homme de cette condition. Et donc va commencer une affaire pour essayer d'attaquer en justice et déloger cet homme. Sauf que cet homme sauvage a une particularité, c'est qu'il fait en fait, il a fait même pousser une forêt tropicale dans son appartement. Et il y a des animaux qui y vivent. Et à un moment donné dans le livre, on rentre dans cette maison. Et à partir du moment où on rentre dans cette maison, le livre change, il devient un carnet. Et alors là, c'est de l'absurde total, mais génial.
Un carnet, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des hommes qui est entré dans cette maison qui va écrire ce qu'il voit, ce qu'il vit.
D'accord.
Et tout ce qu'il pense. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est hyper ironique. Il se moque, Frédéric Boutet se moque complètement des gens, des statuts sociaux, je ne sais pas comment on dit, et surtout, en fait, de la haute et de l'État. Et il s'en moque vraiment avec finesse. C'est sorti en 1902, c'est une réédition aujourd'hui. Ouais, c'est un très vieux texte, mais qui ne perd pas du tout de sa modernité, pas du tout de son humour et de son ironie. Surtout, j'insiste vraiment sur l'ironie. On passe un moment extraordinairement cool. Vraiment, c'est très bon.
Et comment vous l'avez découvert, vous?
On l'avait travaillé et puis en fait, je l'ai vu. J'ai trouvé que la couverture a été magnifique. C'est une gravure de je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'est marqué. Oui, de Jan Gulden. Et je trouve ça très beau, j'aimais bien le titre, j'ai regardé la quatrième et j'ai trouvé ça assez intriguant. Et j'ai lu la préface parce que c'est préfacé par Claude Deméoc Et en fait, la préface, elle remet tout en contexte, et à partir de là, vous êtes obligé de lire la suite, parce que c'est...
Et surtout, quand on a le coup de cœur de Thibaut Radel. Stanislas Rigaud, qu'est-ce que vous tendez, mais seulement aux clients habitués quel est le coup de cœur du moment où vous dites « j'en ai pas beaucoup, mais tenez, prenez-le, vite, vite, vite ».
Non, alors c'est tout l'inverse, parce que j'en ai énormément et que tout le monde en parle. Mais alors vous allez me dire pourquoi je veux parler d'un livre dont tout le monde parle, c'est-à-dire le Elena Ferrante. C'est simplement parce que le livre est formidable.
Et oui, on en a parlé tout à l'heure avec Sophie aussi.
Ouais. La vie mensongère des adultes aux éditions Gallimard. Et vraiment, moi je suis vraiment par terre en fait. Je l'ai pris, j'ai commencé, je me suis dit bon allons-y, voyons ce que ça donne. Et j'ai été totalement séché par cette histoire toute simple, hein, une préadolescente, Giovanna, on est à Naples forcément. L'époque est pas très définie, on imagine fin 70, 80, mais c'est pas très clair. Il n'y a pas beaucoup d'indices là-dessus. Et cette fille qui vit, fille unique, dans une famille calme, le père est universitaire plutôt brillant, la mère est professeure aussi, et elle corrige des romans d'amour en plus, qu'elle réécrit souvent, dixit la fille, et tout va très bien, si ce n'est que le roman commence par une phrase terrible, le père dit à la mère, croyant que la fille ne l'entend pas, je crois qu'elle est laide, je crois qu'elle devient laide, et ça commence comme ça, et cette petite phrase va totalement fissurer l'univers entier de Giovanna, cette petite fille. Et le roman va nous raconter comment cette petite fille va passer de l'enfance à l'adolescence, voire plus. C'est, moi je trouve que sur ce thème, effectivement, du passage à l'âge adulte, c'est un livre absolument remarquable, bouleversant, d'une rare qualité d'écriture. Et en plus de ça, c'est forcément très psychologique, d'une rare finesse. J'ai vraiment été très très impressionné. Et en plus de ça, Elena Ferrante glisse à droite et à gauche, 2, 3, 4, 5 retournements qu'on voit pas venir. Mmh. Et donc résultat, on est totalement ferré par une histoire qui au départ est plutôt quand même très psychologique, plutôt lente, plutôt analytique en fait. Et la collision entre ces retournements de situation et la manière dont elle a construit son histoire et la finesse du genre, moi ça m'a rappelé des gens comme Javier Marías. Enfin, ça m'a vraiment... J'en parle à tout le monde, donc c'est un peu fatigant. Hein. Et en l'ayant fini là avant-hier, je suis resté là comme deux ronds de flanc à me dire « mais waouh, quel livre !»
Mais oui, moi j'en ai parlé chez Sophie tout à l'heure, et quand vous m'avez dit que vous vouliez en parler... Je me suis dit, oh, après tout, il a l'air d'y tenir tellement, il a l'air d'avoir tellement aimé. C'est ça ce que j'aime.
C'est tellement généreux.
Chez mes libraires, c'est qu'ils ne sont pas blasés encore. Ils peuvent tout lire encore. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est sorti cette semaine. Est-ce que ça cartonne déjà dans les librairies?
Ouais, très gros démarrage.
Chez Thibaut aussi,
ouais. Très gros démarrage. Et je ne savais pas quoi en penser non plus en termes de vente. Je me suis dit, bon, mine de rien, on avait vu le public un petit peu s'éroder au fur et à mesure des tomes de la saga. Et comme tout ce qui était paru depuis, en tout cas chez nous, n'avait pas très bien fonctionné, même s'il n'y avait pas de nouveaux romans, là, au début, effectivement, je me suis dit, bon, ok, on va voir. Et en fait, c'est un très gros démarrage et on va pousser à mort parce qu'effectivement, là, en ce moment, on a beaucoup de très bons livres et celui-ci fait partie, pour moi, des très grands coups de cœur de ce début d'année. Enfin, ce milieu d'année.
Le nouveau Ferrante et puis Frédéric Boutet, L'Homme Sauvage. On retrouve ces livres, bien sûr, dans les librairies de Thibaut Radel, L'Écriture à vos cressons et de Stanislas Rigaud, Librairie Lamartine à Paris. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
Merci.
Dans un instant, encore des livres. On va flâner rayon jeunesse avec ce grand enfant de Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez un album intitulé La belle équipée de Sophie Vissière.
Oui, je vous embarque dans une histoire merveilleuse. Nous sommes dans une école, dès les premières pages. On ne sait pas bien où ni dans quelle classe, mais ce n'est pas le plus important. C'est jour de sortie dans un centre de vacances, sortie canoë au programme pour tout le monde. Enfin non, pas tout à fait pour tout le monde, justement. Trois élèves, Charlie, Adama et Marthe, sont punis. Et ben oui, il ne fallait pas organiser une bataille de boulettes de pain à la cantine. Punis donc, ces trois enfants vont donc imaginer la construction d'un bateau pour prendre le large par leurs propres moyens.
C'est-à-dire ?
Ils ont de l'imagination à revendre et commencent très méthodiquement. D'abord, les plans de leur embarcation, ce sera un radeau en bois. Vient ensuite
classique.
La répartition des tâches. Marthe et Charlie vont récupérer du bois, un sac en toile, des feuilles. Adama, lui, s'occupe du matériel de survie, jumelles, gourdes, boussoles et autres trousses de secours. Et toutes les scènes de cette construction s'enchaînent en parallèle. Un drame va se produire, va ralentir la construction de leur super bateau. mais bien évidemment, je garde le secret.
Et à partir de quel âge on peut lire cet album, Victor ?
Alors, vous pouvez le lire à vos enfants à partir de 5 ans, c'est vraiment un album magnifique.
C'est complètement fou, il y a des gosses de 6 ans qui vont prendre la fuite en colo.
Eh bien justement, ça peut être l'idée, c'est un livre très graphique, toutes les illustrations sont réalisées au pochoir, mais vous allez comprendre un peu par la suite. On alterne d'abord entre les pages somptueuses, des images format réduit qui nous permettent de suivre deux scènes à deux endroits différents en même temps. Les trois enfants ont chacun un code couleur, on le suit grâce à ça. 128 pages tenues de bout en bout, c'est vraiment un travail colossal et qui, en plus d'être beau, fait l'éloge du jeu manuel, justement, vous allez comprendre, de la construction avec des matériaux de récup. Eh ben oui, vous pouvez lire le livre à votre enfant et s'il aime déjà un petit peu ce goût de l'aventure, ben vous pourrez ensuite essayer de construire avec lui. Alors pourquoi pas un radeau miniature pour pas qu'effectivement ils prennent trop le large.
Et avec un gilet de sauvetage.
Bien sûr.
Merci beaucoup Victor. C'est donc La Belle Équipée de Sophie Vissière aux éditions Helium. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresse, à Xavier Joly pour la programmation musicale et puis évidemment, merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. À la semaine prochaine pour d'autres livres.
Europe 1.